Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Alors ce soir, on va parler, pour commencer ensemble, de ce projet de loi climat présenté ce matin au Conseil des ministres. C'est la grande affaire du quinquennat, nous dit-on. C'est l'aboutissement de la fameuse convention citoyenne sur le climat dont on a beaucoup parlé. 65 articles qui concernent le transport, le logement, l'agriculture et qui fait débat. Réaction par exemple de Nicolas Hulot.
C'est pas suffisant. Il faut aller plus vite avec plus de moyens. Mais il faut aussi la contrainte. Mais la contrainte, elle doit laisser personne dans une impasse. C'est-à-dire qu'il faut les financements pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les propriétaires les plus modestes.
Alors, le projet de loi comporte 46 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des choses très très concrètes, hein. La limitation des lignes aériennes, la lutte contre la pollution en ville, le développement du bio, du vrac, de la consigne, des choses qui peuvent avoir un impact sur notre quotidien. Est-ce que tout ça est à la hauteur des enjeux, Emmanuel Ducrot?
En tout cas, la prise de conscience est là, à la hauteur des enjeux, lesquels? S'il s'agit des enjeux, en tout cas...
Je vais vous les donner. Les enjeux, c'est la réduction d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et c'est contenir le réchauffement climatique de 2 degrés d'ici 2030. C'est ça les enjeux?
Je pensais que vous parliez des enjeux, des attentes de la Convention citoyenne. Si c'est ça, ça n'est pas le cas. Et si ce sont les enjeux, je crois qu'il faut qu'on se fasse à l'idée qu'on ne peut pas demander à la France de faire une transition en 3 mois. Ça n'est tout simplement pas possible. Effectivement, les enjeux sont énormes, mais en fait, on n'a pas fait le chemin inverse, c'est-à-dire savoir où on devrait être en 2050 et faire des points d'étape comme un rétro-planning. Et finalement, on se retrouve avec une proposition de loi qui fait beaucoup de déçus, qui fait des déçus à la Convention citoyenne parce qu'on avait promis à ces 150 personnes qu'on reprendrait toutes leurs propositions qui étaient pour certaines...
Moins quelques bonus.
Oui, voilà. Mais elles étaient pour beaucoup totalement jusqu'au-boutistes et elles auraient été très, très mal perçues de l'opinion publique en France. Et déjà, on voit que sur les lignes aériennes, ça grince, juste pour donner un seul exemple. Tout ça, c'est quand même extrêmement compliqué parce que Emmanuel Macron se retrouve là, pris entre deux feux.
Alors, il y a l'aspect politique, Catherine Ney, qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a aussi l'aspect d'enjeu presque... d'humanité, puisque c'est ça qu'il y a derrière tout de même.
Oui, mais depuis que l'écologie dit vraiment la planète, là il faut arrêter le réchauffement climatique, tout le monde est d'accord. Mais l'écologie, il y a toujours ce fossé énorme qui sépare les grands prêtres des laïcs. L'écologie, c'est devenu une religion, vous savez, qui a ses ayatollahs, qui veulent tout de suite, au risque d'ailleurs de mettre sur le flanc les économies. Et puis, il y a les politiques qui sont les laïcs qui veulent éviter des catastrophes sociales, des catastrophes économiques. On en est toujours là.
Oui.
Et donc, ce projet de loi, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et là, c'est le petit pas. C'est des petits pas, qui ne sont pas nuls. Et ça va marquer quand même une étape. Même s'il va y avoir des discussions et on verra. Mais tenir, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, la marge des 40% de réduction des gaz à effet de serre 2030, ce n'est pas jouable.
Oui, c'est pas jouable, mais c'est pas suffisant quand même, parce que le Conseil économique et social, hein, c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais ça n'est ni des ayatollahs, ni des jusqu'au-boutistes. Il dit pour arriver aux objectifs, il faudrait en fait tripler le rythme actuel de réduction d'émissions. C'est un bouleversement qu'il faut et pas des ajustements à la marge. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Jérôme Fourquet, maintenant?
Mais comme disait Catherine, en général, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, on est sur le schéma qui a été décrit d'une opposition entre les fondamentalistes et les réalistes. Bon, ça, c'est le schéma habituel. Mais en plus, on est dans un pays où on a une économie qui a été massacrée par le Covid.
Oui.
Et alors, je sais bien que souvent, les écologistes disent, et à juste titre, on nous dit toujours que c'est jamais le moment. Parce qu'on est en phase de déprise économique, on fera les réformes quand... et elles ont toujours été différées, ces réformes. Et donc maintenant, il faut faire des efforts qui vont être tout à fait douloureux pour toute une partie de la population, alors même qu'on est dans une situation qui est déjà déplorable. Hein. Il y avait des choses qui avaient été très intéressantes, qui avaient été mesurées au moment du premier confinement, quand toute une partie de la planète, en tout cas ce qui était la planète économiquement la plus développée, était à l'arrêt.
Oui.
On avait constaté que les baisses d'émissions de gaz à effet de serre avaient été réelles, mais avaient été néanmoins limitées, alors même que toute une partie de l'économie était à l'arrêt.
Mais vous connaissez ce que disait Schumpeter, la notion de destruction créatrice. On détruit une partie de l'économie, mais on peut en reconstruire une autre grâce aux enjeux économiques, peut-être demain.
Alors ça, c'est exactement vrai si on est un réaliste, pas si on est un décroissant. Et moi, je constate que dans les gens qui poussent à la roue pour aller plus vite, la plupart sont décroissants et la plupart voudraient courir deux lièvres à la fois.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et fermer les centrales nucléaires à la fois. Ça n'est pas possible.
On a déjà eu ce débat. Moi, j'ai l'impression quand même que l'opinion, et y compris d'ailleurs les écolos, ont changé complètement.
Alors, il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas changé d'avis.
Hein. Oh, mais je peux vous dire que fermer...
Le nucléaire, c'est plus dans le débat. Hein. C'est quasiment plus dans le débat.
C'est plus dans le débat, sauf qu'Emmanuel Macron a dit en décembre qu'il y aura toujours le nucléaire, il y aura toujours un mix. Et avoir fermé Fessenheim, eh bien, il y a eu deux pics de froid en décembre et en janvier. Eh bien, oui. La France a été obligée d'acheter à l'Allemagne ou en Europe l'électricité qui lui manquait.
Oui.
Et c'était à peu près l'équivalent.
C'est à cause de ça. Vous savez qu'avec le Covid, il y a plein de centrales qui avaient été mises à l'arrêt.
L'équivalent de, en tout cas, l'équivalent de la production de Fessenheim. Ils ont acheté qui à l'Allemagne, qui le jour où on fermait Fessenheim, ouvrait une grande centrale à charbon, moins polluante que les anciennes, mais qui ouvrait sa centrale à charbon. Voilà.
Alors, on marque une première pause. Emmanuel Ducrot, je vous donne la parole juste après la pub. 18h40, on se retrouve dans quelques instants avec ces enjeux écolo qui visiblement ne satisfait pas grand monde. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du mercredi, toujours Catherine Ney, Emmanuel Ducrot de l'Opinion et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP. On continue encore un instant de parler de ce projet de loi climat, Macron, écolo. Où est-ce une posture? Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question, votre avis, Jérôme Fourquet.
Alors, je pense qu'il est comme il est plus jeune qu'eux, mais il est comme ses prédécesseurs. S'il est converti, c'est un converti de fraîche date à l'écologie. Mmh. Catherine Ney parlait de religion.
De pragmatisme.
Un pragmatisme. Et donc, il y a deux choses. Il sent l'opinion publique qui est en demande sur ces sujets-là. Il constate aussi objectivement qu'avec les rapports du GIEC ou autres, il va falloir adapter notre modèle de développement, notre mode de vie. Donc, il est prêt à entamer ce mouvement. Il a pris un certain nombre de risques, cette convention citoyenne, parce que ça peut faire beaucoup de déçus si ce qu'on vote ensuite est en deçà.
C'est une initiative qu'il faut le rappeler, qu'il a prise à l'issue des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et il a aussi été vacciné, si je puis dire, par cette crise des Gilets jaunes, qui avait, on s'en souvient, comme point de départ, une taxe écologique.
Et comment s'est perçue dans l'opinion publique cette idée de convention citoyenne, d'associer les citoyens à la décision politique?
Sur le principe, personne ne peut être contre. Comme on n'en parle plus, mais comme il a annoncé son référendum sur l'introduction de la prise en compte du climat, il n'y a pas besoin de référendum pour ça, tout le monde est pour. Donc, pour résumer, Emmanuel Macron s'est peut-être progressivement converti à cela, et il y voit aussi, dans la perspective de 2022, une occasion d'essayer de consolider son bloc central en essayant de faire en sorte que cette thématique ne soit pas laissée en monopole aux écologistes qui ont repris des couleurs et qui pourraient être une concurrence menaçante.
Mais au vu de ce qu'on vient de dire quand même, il y aura forcément des déçus, parce que Emmanuel Macron tâchera d'afficher un bilan écolo plutôt positif,
à mon avis, ce qu'Emmanuel Macron cherche à faire, c'est de décrocher du bloc écologiste une partie réaliste de cet électorat en disant, écoutez, on n'a pas tout bien fait, mais on en a fait plus que les autres, dans un contexte différent, et il y a ceux qui parlent, les fameux Amish, et puis ceux qui font, et donc il va faire la stratégie des petits pas dans les mois.
Ministres en 3 ans.
La stratégie des petits pas, en disant écoutez, voilà, on a pris quelques mesures symboliques et on essaye d'avancer. Alors ça ne convaincra pas tout le monde. Il y a toute une frange de l'écologie politique qui votera pour un candidat qui portera ça, mais l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de capter une partie de ses électeurs.
Je voulais vous donner un chiffre tout à l'heure, puisqu'on essayait de mesurer ce qu'il faudrait faire pour atteindre ces fameux objectifs de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC, organisme relativement sérieux, qui fait des prévisions assez objectives, nous dit pour atteindre ces objectifs et garder un espoir de limiter le réchauffement à 1,5%, il faudrait réduire, tenez-vous bien, nos émissions de 7,6% par an pendant 10 ans, c'est l'équivalent d'un Covid par an. Plus d'avions, plus de voitures, personne dehors, le monde à l'arrêt pendant 10 ans. C'est injouable, le combat est perdu d'avance.
À qui est-ce qu'on peut vendre un tel programme politique? À qui est-ce qu'on peut vendre ce programme politique? Parce que sur le papier, effectivement, tout le monde a envie qu'on règle la question climatique.
Rien du tout. Il nous dit simplement, ça veut dire que c'est irréversible.
Quelle traduction politique on peut donner à ça? On se rend bien compte que même les plus décroissantes des décroissants n'accepteront jamais que, par exemple, qu'on fasse plus d'hôpitaux, qu'on fasse plus d'infrastructures. Enfin, il y a un moment où tout ça a quand même des limites.
Mais quel est le curseur, ou un moment, pardon, je sors un peu de la petite politique, mais où est le curseur, à votre avis, où à un moment on se dira, il en va de la survie quand même de l'humanité de cette affaire-là? Parce que c'est ça l'enjeu quand même, au bout du bout.
Comment ?
Souvent, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'espèce humaine réagit souvent quand elle est complètement contrainte. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid, notamment pendant le premier confinement. Il a fallu attendre que l'épidémie s'emballe et que les morts commencent à augmenter de manière vertigineuse pour qu'on se résolve à prendre des mesures drastiques. Et là, on voit bien, il y a eu un rapport récent de Météo France qui, de manière très parlante, a fait des projections. On parlait de météo tout à l'heure, sur ce que ça pouvait donner région française par région française.
Seulement 3 degrés. Hein.
Voilà, seulement 3 degrés, et on voit ce que ça donne. Sauf
c'est colossal, les effets.
Comme ce qui vient d'être dit, dire bon, bah, le prix à payer, c'est tout de suite maintenant restriction de tel usage de la voiture, etc. etc. C'est très compliqué.
Donc, en fait,
à condition que tous les pays soient d'accord sur la même ligne très drastique. Parce que si un seul pays veut donner l'exemple, qui est la France, comme me disait Valéry Giscard d'Estaing, qui représente 1% du planète, si on s'impose cette cure effrayante, mais les autres jamais n'y souscriront.
Oui.
Alors on ne peut pas être seul à donner l'exemple.
C'est aussi un marché qui peut être intéressant et porteur pour nous. Hein. Ça peut être une industrie de pointe aussi, l'industrie verte, l'industrie écolo pour la France.
Ça peut tout à fait être une industrie de pointe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le logiciel décroissant envisage une décroissance qui est souvent très heureuse. C'est-à-dire, on va faire moins de profits, on va faire moins de voyages, etc. Et on va se retrouver autour de feux de bois pour chanter. Il y a un moment, il faut qu'on comprenne que la décroissance, ça veut dire aussi moins de services publics. Ça veut dire que les gens vont devoir accepter l'idée que leurs enfants vivront moins bien qu'eux tout de suite. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement difficile à comprendre dans une famille.
Oui.
Et que dire, vos enfants, dans 40 ans, vivront moins bien à cause du réchauffement climatique, c'est une chose. Oui. Dire, cette génération après vous ne vivra pas comme vous avez vécu, et elle vivra moins bien parce qu'elle va devoir se serrer la ceinture. Et c'est très concret, c'est très difficile à faire passer.
C'est un débat absolument passionnant. On pourrait en faire une émission. D'ailleurs, on fera une émission là-dessus. On marque une nouvelle pause, 18h47. On va revenir à des considérations, j'allais dire, un peu plus terre-à-terre. Il y a de la friture sur la ligne chez les Républicains, tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.